Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Libre Propos, l'émission hebdomadaire de Radio Rancière qui vous permet d'entendre la parole de notre évêque sur des sujets divers et variés. On a un menu copieux, c'est presque un menu de Noël. Bonjour Monseigneur.
Bonjour Christophe, c'est vrai que les réveillons approchent Noël, Nouvel An, les restaurants nous proposent des menus alléchants déjà.
Oui, mais la fête de Noël c'est aussi tout autre chose.
La fête de Noël c'est autre chose, oui.
Évidemment, la naissance du Sauveur, de Jésus-Christ. Et j'aurais souhaité que vous, peut-être, évidemment, on a l'impression qu'on connaît tous comme ça le récit de la nativité, peut-être de nous donner les éléments phares de ce récit qui est merveilleux.
D'accord, évidemment. Effectivement, on dit souvent Noël, et ce mot est lié à nativité, donc naissance. C'est la date qui a été choisie dans l'histoire de l'Église pour se rappeler de la naissance de Jésus. Qui est Jésus? C'est Dieu qui vient parmi nous, qui vient par sa parole, qui vient de manière miraculeuse, dans une femme qui est Marie, qui accueille la demande de Dieu par la bouche d'un ange qui lui parle vraiment en lui confiant cette mission. Et donc on a pris cette date du 25 décembre de manière un peu amusante. C'est d'abord parce qu'au fond, bon, il fallait trouver une date, que c'est le jour où les jours vont rallonger en fait. Maintenant, c'est plutôt le solstice, je crois, le 21 décembre. Mais à l'époque, au Moyen-Âge, on pensait au 25. Et donc, on s'est dit, comme Jésus est un peu la lumière qui vient, bien ce jour qui marque à nouveau la croissance des jours sera un jour un peu symbolique pour fêter Jésus. Et donc, Noël, c'est une fête de la simplicité, de l'enfance, de la petitesse, car Dieu, ce grand mystère insondable, que Dieu qui est infiniment grand, infiniment puissant, qui crée cet univers de folie magnifique, ces galaxies, tout ça, vient proche de nous, vient s'abaisser proche de nous par son incarnation, donc sa venue comme un enfant, comme un être humain, ce mystère de Dieu. Et qu'on va célébrer, oui.
Est-ce qu'on peut parler de vulnérabilité de Dieu, un tout petit bébé qui n'a que ses parents, qui naît dans une grotte, tout le monde refuse le logis.
C'est-à-dire que Dieu, par définition, n'est pas vulnérable, parce que Dieu est Dieu, et sa vulnérabilité n'existe pas, par définition. Mais en se rapprochant des hommes et en prenant condition humaine, il assume la fragilité. Ouais. Il assume même de venir dans une humanité qui vit aussi avec le péché. Lui n'est pas pécheur, lui n'assume pas le péché pour lui, mais il côtoie cette fragilité et il veut parler à ce monde fait à la fois de bonté, de générosité, mais aussi de péché, pour le conduire ce monde à un salut nouveau, dès maintenant vivre avec lui, en lui, et demain, vivre pour la vie éternelle. Donc il y a une présence fragile aussi, au sens qu'il va confier son message à des êtres humains fragiles. Et ça, c'est aussi un mystère étonnant.
Et impossible de parler de Noël et de la nativité sans parler de Marie Christophore qui porte le Christ. Est-ce qu'on doit, d'une certaine manière, être comme Marie, c'est-à-dire porter le Christ à l'intérieur de nous?
C'est ça, notre vocation, de manière assez mystérieuse, c'est qu'il veut d'abord faire de nous des frères et sœurs. Donc, il veut nous transmettre la vie divine, notamment on la reçoit par le baptême particulièrement et les sacrements. Et il veut qu'au fond, nous devenions sa maison, sa demeure, au point qu'un grand saint Paul dira « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Et qu'on le fasse aussi pour que le monde croit, que le monde entende que l'Évangile est une bonne nouvelle.
Alors, à l'occasion de Noël, bien évidemment, eh bien, il y a la messe de minuit, mais pour vous, il y a trois messes ce jour-ci.
J'aime quatre messes de Noël.
Même quatre messes de Noël.
Je vais commencer samedi matin à Châteaudun, à la prison.
À la prison de Châteaudun, oui.
Oui, j'aime beaucoup aller là-bas. Non pas que ce soit un lieu agréable, c'est un lieu difficile, je pense, pour ceux qui y sont enfermés et ceux qui y travaillent d'ailleurs aussi. Mais on a une salle de sport un peu polyvalente où on a du matériel, un hôtel, un ambon, de quoi célébrer la messe, et on le fait avec... Alors, l'an dernier, c'était limité par le Covid, on avait 25 personnes. Cette année, on aura peut-être plus, j'espère, parce que au fond, les prisonniers sont assez contents. On envoie des catholiques, des protestants, des orthodoxes, et même des non-chrétiens qui viennent à cette messe parce que ça les sort un peu de leur enfermement carcéral. Et puis, ils ont l'air assez contents de venir écouter, chanter, communier à ce moment-là.
Ouais. Vous écrivez,
c'est une messe, donc.
C'est une messe, hein. Vous écrivez une homélie particulière du coup,
Je vais vous dire, je n'écris pas parce que je suis plutôt dans une relation de dialogue avec de proximité. Tous ne parlent pas français, donc il faut être simple, des mots simples. Alors que j'aurai une messe le soir à Rechèvre, donc à 18h30, la messe de la veillée de Noël, je recommencerai à minuit à la cathédrale et j'aurai une messe à nouveau le dimanche 25 à 11h à la cathédrale. Donc j'aurai 4 messes différentes dans des cadres très différents, mais je suis assez content.
Ouais. Je reviens juste au centre de détention de Châteaudun. Je me disais, finalement, c'est un signe fort parce que la prison enferme et Dieu libère.
Dieu libère et puis c'est un peu comme une sorte de verticalité oui. qu'il proposait, quoi, qui dépasse les grilles et les murs d'enfermement, c'est sûr. Oui.
Je voudrais qu'on fasse un petit retour sur votre dernier message fraternel qui est extrêmement intéressant. Vous y revenez notamment sur le Concile Vatican II. Vous dites que c'était un événement extrêmement important qui avait été voulu par le pape Saint Jean XXIII parce qu'il s'agissait d'entrer en dialogue avec un monde qui était en changement, en grand changement. Il y a eu 68 ensuite. Il s'agissait aussi peut-être d'évangéliser, vous le dites, hein, une société que tentait le marxisme et où l'athéisme régnait. Et aujourd'hui, c'est encore peut-être plus difficile parce que vous me parlez d'une société liquide.
Le XXe siècle, je ne suis pas un historien des temps modernes, mais le XXe siècle a bouleversé l'humanité. Tant de faits se sont passés. Il y a eu les guerres, bien sûr, il y a eu la colonie, puis il y a eu les décolonisations successives. Et on voit très bien que la société contemporaine occidentale, française, change dès l'après-guerre. Et que mai 68 va être un événement tout à fait fort socialement. Mais qui est le fruit d'un parcours qui a commencé après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, peut-être même avant déjà. L'Église aussi vit un changement. Elle est confrontée au monde, elle va dans le monde entier évangéliser, mais elle est aussi en bouleversement depuis la guerre. Et le Concile a été un appel à vraiment s'interroger. Il y a d'ailleurs des réflexions qui ont été difficiles à mettre en place. Au début, certains avaient comme préécrit tous les textes du Concile en pensant qu'il fallait en gros mettre un vocabulaire plus moderne, mais qu'on dirait tout à fait la même chose qu'avant. Et puis, il y a eu ce courant fantastique de gens qui ont dit « mais il faut repenser le rapport de l'Église avec la société, avec le monde, dans le monde contemporain, comment parler à ce monde, comment dire le même évangile dans la même tradition, mais le dire avec des mots nouveaux, avec un langage nouveau, avec des peuples qui deviennent prépondérants quant à leur vie ecclésiale par le nombre de fidèles qui s'ajoutent sans cesse. Et je pense que ce concile venait à point. Il faudra bien sûr, même encore aujourd'hui, le relire, le reprendre. Il y a des intuitions de l'Esprit Saint qui sûrement sont pertinentes pour ce temps contemporain. Pas la société liquide, hein. Ça veut dire que c'est un concept qui a été développé pour dire que dans le passé, pas si lointain que ça, l'habitat, l'amour, la famille, le travail étaient des facteurs très stables. Les gens avaient un travail dans la même entreprise toute leur vie. Ils travaillaient pour les mines ou pour Peugeot ou pour EDF toute leur vie. Aujourd'hui, on sait qu'on a 4,5 métiers différents sur une carrière professionnelle. Et je lisais de manière assez avertie, qui disait que d'ici 20 ou 30 ans, on aurait entre 13 et 15 métiers, 13 et 15 jobs différents. Donc ça veut dire qu'on va se déplacer, qu'on va changer d'habitat, qu'on va avoir des gens qui vont s'engager dans le bénévolat très brièvement, un an, deux ans avant de partir ailleurs. Et l'Église elle-même doit s'adapter à cette situation d'un monde qui est ouvert en plus à l'écologie, qui est ouvert à cette dimension maintenant mondiale de communication par les réseaux. Elle ne peut pas être enfermée dans son petit pré carré, dans sa petite église et son clocher, en pensant résister. Par contre, elle est là pour donner le même évangile, le même Christ, la même espérance, la même parole d'éternité, mais il faut le dire avec un message audible pour que les gens comprennent de quoi on parle. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ne savent plus grand-chose. Ils n'ont pas reçu d'éducation religieuse. Ils savent à peine qui est Jésus, qui est Marie. Et tout ça, c'est à reprendre un peu comme les missionnaires l'ont fait en d'autres pays, à nouveau frais, avec délicatesse, mais avec un vrai zèle missionnaire.
Ouais. Est-ce que ce n'est pas difficile finalement de construire quelque chose dans un monde qui est comme ça, vous l'avez dit, en perpétuel mouvement, perpétuelle mutation, où tout est provisoire finalement, l'impression que tout est provisoire, tout est presque illusoire. Est-ce que ce n'est pas difficile d'imposer une parole qui réclame justement du silence et de la profondeur?
Alors, du silence, c'est vrai qu'il en faut, et c'est l'occasion, le silence permet de réfléchir, de méditer, etc. Est-ce que c'est difficile? C'est sûrement difficile, mais ça l'a été pour les apôtres. Les apôtres avaient un contexte romain qui était totalement décalé par rapport à l'Évangile. Ils avaient des mœurs, les Romains, qui n'étaient pas acceptables pour un chrétien. Et en même temps, Jésus ne parle jamais de ces mœurs romains, ne dénonce pas la vie culturelle, sociale et politique des Romains. Il nourrit son peuple, ses frères, ses fidèles, d'une parole qu'ils vont pouvoir porter dans ce monde. C'est difficile, mais voilà, il y a en même temps aussi une soif de quelque chose d'autre qu'un monde horizontal fait de consommation. Les gens aspirent à une verticalité, à une spiritualité, à du sens, à ce que leur âme soit nourrie. Donc on a un chemin à faire.
Il nous reste une petite minute, un petit sourire, pour finir, un petit sourire triste quand même. Vous avez peut-être regardé la finale de la Coupe du Monde.
Eh bien, je l'ai regardé. Oui. J'ai été passionné par ce match absolument étonnant.
Incroyable.
Étonnant. Je pense que l'Argentine avait quand même marqué de sa supériorité majoritairement ce match. Qu'elle ait gagné, c'est pas mal et c'est même bien. Maintenant, on peut dire que la France a vraiment eu ce côté un peu artiste qu'on aime chez les Français. Qui d'un seul coup sont capables d'une sorte de jubilation technique qui amène tous à communier à un but toujours surprenant, extraordinaire. Et c'est ce qu'on a eu avec notamment Mbappé, qui a été vraiment l'homme du match pour ça. Donc c'était un beau match et au fond, il y a deux gagnants, le gagnant de la Coupe et le gagnant de la beauté aussi. Et bravo aux deux équipes.
Et le pape François a dû être content.
Bravo pour le pape François.
Merci beaucoup, merci auditeurs, auditrices, merci à Simon Martin en régie technique. Je vous rappelle que vous pourrez réécouter cette émission sur notre site www.radiorentiel.fr. À bientôt.
Je suis trop petit pour faire de grandes choses, Jésus. Ma folie à moi, c'est d'espérer, espérer, espérer au-delà même de l'espérance. Espérer sans rien voir, mais espérer toujours. Je suis trop petit pour faire de grandes choses, Jésus. Ma folie à moi, c'est d'espérer, espérer, espérer dans la foi, obéir en confiance, partir sans bien savoir, mais espérer toujours. Je suis trop petit pour faire de grandes choses, Jésus. Ma folie à moi, c'est d'espérer, espérer, espérer. Dieu lui-même, il se fait providence.